Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des Demokratzer Podcasts. In dieser Episode spricht Georg Hessler-Sansano, er ist Redaktor für Sicherheitspolitik bei der NZZ, mit dem französischen Autor Matthias Enner über sein Buch Sonn und die Geopolitik des Mittelmeerraums.
Was kann Literatur, um geopolitische, gesellschaftliche oder auch historische Zusammenhänge zu erfassen? Diese Frage steht im Zentrum einer Idee, die heute Abend vielleicht ihren Ausgangspunkt hat. Eine Serie in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, mit Gedanken von Literatinnen und Literaten, Filmemacherinnen, Filmemachern und anderen Künstlerinnen über die tiefer liegenden Kräfte, die das geopolitische Gefüge bewegen. Und das bewegt sich ja zurzeit sehr stark. Diesen Sonntag haben wir wieder einen Mosaikstein mehr erlebt, den wir vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten hätten, nämlich die Entführung dieses Ryanair-Flugzeugs über den weißrussischen Luftraum. Unser Gespräch, unsere Gedanken heute Abend bilden den Rohstoff einer journalistischen Form zur, Achtung, großes Wort, Welterklärung. Denn diese Welt, in der wir leben, hat Erklärungsbedarf. Die Verhältnisse entwickeln sich derart rasch, dass alle Weißbücher und sicherheitspolitischen Berichte schon bei der Veröffentlichung veraltet sind. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Enner, aus Frankreich angereist heute, und ich begrüße auch Sie, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Wir bilden eine spannende Gruppe heute Abend. Ich freue mich auf Ihre aktive Beteiligung. Zwischen Rufe und zwischen Fragen sind durchaus erwünscht in einem Demokratieforum. Heute Abend reden wir also über Geopolitik und Literatur. Wir fokussieren auf La Sonne, eine Ilias unserer Zeit, wie der Figaro 2008 geschrieben hat.
Demokratzer.
Matthias Enner wird die Textstellen auf Französisch vortragen, damit wir die Kraft der Originalsprache spüren, und wir werden bereits jetzt eine erste Textstelle hören, um zu spüren, wie sich dieses Werk anfühlt.
Le pont de Lodi sur l'Adda ne doit pas être loin. Au cours de la première campagne d'Italie, peu avant de se rendre en Égypte, lui aussi Bonaparte y combattit. Bonaparte, peut-être le plus grand soldat de Méditerranée avec Hannibal et César, le sombre Corse aimé de Zeus, faisait face à mes ancêtres croates servant sous les Autrichiens, bien rangés devant le pont sur l'autre rive de l'Adda. 12 000 soldats, 4 000 cavaliers avec leurs canons, leurs lourds fusils aux interminables baïonnettes et leur musique militaire. Napoléon met la main à la pâte. Il aime pointer les pièces. Il a été artilleur. Il est auprès de ses hommes. Il leur insuffle courage et détermination, comme Athéna aux Grecs. Ils vont traverser. Contre toute attente, ils vont s'élancer à l'assaut d'un pont de bois sur lequel pleuvent les balles et la mitraille. Une colonne de 6 000 grenadiers charge sur le tapis de ses propres cadavres tombés au rythme des salves autrichiennes. Au milieu du pont, ils hésitent. L'âne, le petit teinturier du Gers, s'avance, hurle et sabre au clair la tête de ses hommes, débouche sur la rive opposée face aux servants ennemis pris de panique. Les Français s'ouvrent un chemin dans les lignes à la lame. Alors que la cavalerie passée à guet en amont massacre les Croates en pleine débandade. 2 000 tués et blessés. 2 000 Habsbourgeois tombés dans quelques heures jonchent la rive du fleuve. 2 000 corps que les paysans lombards dépouilleront de leurs objets de valeur. Médailles de baptême, tabatières d'argent ou d'émail au milieu des râles des agonisants et des blessés dans cette nuit du 21 Floréal 1796 en 4 de la Révolution. 2 000 fantômes, 2 000 ombres, comme autant de formes derrière ma vitre. Les peubliers, les cheminées d'usine, nous nous dirigeons vers le pot. La campagne se fait plus sombre. La grande armée, qui ne s'appelle pas encore ainsi, entre dans Milan le lendemain de la bataille du pont de Lodi. Le capitaine, le petit caporal est né. Le mythe est en marche. Bonaparte poursuivra son aventure jusqu'en Russie, en passant par l'Égypte.
Matthias Enner verbindet Barcelona mit Beirut, Sarajevo mit Jerusalem, Tunis mit dem großen St. Bernhard, Hannibal haben wir gehört, rasend wie der Zorn des Achill, reisen wir rund ums Mittelmeer, La Zone Méditerranéenne, die den Titel gibt. La Zone, ein langer, atemloser Satz der Weltgeschichte. Es ist der Abschluss und der Anfang der Geschichte. Matthias Ennar hat einen Wendepunkt erwischt. Die Zone setzt einen Punkt hinter das 20. und öffnet den Blick auf das 21. Jahrhundert. Ennars Hauptfigur, ein Achill und Odysseus zugleich, aber ohne jeden Reiz, der eine Nausikaa hätte faszinieren können, ist aus der Zeit gefallen. Ein Geheimagent, der sein Gewissen erleichtern will, fährt im Pendolino von Milano Centrale nach Roma Termini. La Zone erschien 2008, am äußersten Ende der Zeit nach dem Kalten Krieg. Jede Station von Ennars wildem Ritt rund ums Mittelmeer ist seither mit einer neuen Geschichte belegt. Aleppo sowieso, auch Barcelona und auch Beirut. Meine erste Frage zielt deshalb auf eine Situierung der aktuellen Lage. Matthias Ennar, was ist seit der Veröffentlichung von La Zone als passiert im Mittelmeerraum?
Eh bien, bonsoir, guten Abend. Je suis très heureux d'être ici enfin après un an que ce soit prévu. En cette année, il s'est passé aussi beaucoup de choses dans la zone. Bien sûr, on peut être raconter un peu pour arriver à ce qui s'est passé par la suite. Comment est-ce que j'ai un peu imaginé ce récit qui peut paraître comme ça un peu abstrait et prétentieux, se dire mais qu'est-ce que ça veut dire que une Iliade d'aujourd'hui. Alors, c'est un journaliste qui dit ça. Pourquoi ? Parce que la première idée pour construire Zone, c'était de s'appuyer sur Homère et sur d'autres auteurs dont on parlera peut-être, et un peu de les prendre par la main et de leur dire « Regardez ce qui s'est produit depuis hein, en Méditerranée. » Et de me rendre compte aussi, et ça a été un peu un moment important de mon parcours, que dans la littérature, et la littérature de voyage notamment, on voit toujours l'Odyssée. Mais on n'aime pas regarder l'Iliade. C'est un peu une des questions de notre temps de nous dire pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas l'Iliade en face, à part pour le mythe. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas justement l'éternel de la guerre dans le bassin méditerranéen depuis finalement notre premier texte. C'est-à-dire que finalement la littérature européenne que nous chérissons et dont nous construisons l'histoire, elle commence par un affrontement guerrier des plus terribles. Et prendre conscience pour moi de ça, pour moi, ça a été vraiment essayer de remettre ensemble et de décoder un peu toutes ces vagues d'aller et venir. Vous savez que dans l'Iliade d'Homère, le principe, c'est on avance vers Troie, et puis on recule, et puis on avance, et puis il y a des épisodes, et ainsi de suite. Et finalement, on peut voir et lire, littérairement parlant, toute l'histoire de la Méditerranée, mais surtout du XXe siècle, c'est en tout cas ce sur quoi je me suis centré dans Zone, comme une espèce d'avancée et de combat, toujours entre des figures métaphoriques qu'on pourrait comparer d'un côté aux Danaïens et de l'autre aux Troyens. Donc c'est comme ça pour moi que c'est pensé cette zone qui est faite justement d'aller-retour dans la Méditerranée et de juxtaposition. Peut-être la question de cette structure qu'a commencé à évoquer Georg, qui mélange des choses dans le temps, c'est de juxtaposer les événements pour les faire parler l'un avec l'autre, en relation. Une espèce de forme de miroir. Et on en saura un peu plus de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis depuis la publication de ce livre, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses pour moi et pour le monde et pour la Méditerranée. Et très certainement, si je devais réécrire ce livre aujourd'hui, malheureusement, je pourrais y rajouter encore et encore des événements. Et bien évidemment, l'événement central pour moi, puisque pour moi personnellement et pour moi aussi dans mes livres, c'est la guerre civile syrienne. Je pense le point le plus triste, le plus marquant et le plus violent du bassin méditerranéen dans les 13 dernières années. mais aussi l'immense déception qu'a représenté pour tous ceux, je pense, qui sont proches de la rive sud de la Méditerranée, l'échec absolu de ce qu'on a appelé les printemps arabes et de la possibilité qu'on a cru, à laquelle on a cru pendant quelques temps, justement, de l'évolution de ces sociétés vers une forme de démocratie ou de bien-être démocratique. En fait, si on regarde bien aujourd'hui, c'est absolument terrifiant, mais presque comparé à ce que je décrivais en 2008, où on avait l'impression d'être sur une espèce de plateau qui pouvait amener justement à une transition démocratique, aujourd'hui, on est dans un désespoir absolu. Que ce soit économiquement, politiquement, artistiquement, c'est la situation dans des pays comme l'Égypte est absolument dramatique. Et ce qui est encore plus grave qu'au moment du printemps arabe, aujourd'hui, le régime égyptien a le soutien absolu de tous les pays importants de l'Union européenne. Donc c'est vraiment le désespoir, en fait, hein, qui s'est ajouté au... Déjà, c'était pas un livre très gai, zone, on peut pas dire, hein, sur la Méditerranée, ou c'était une vision assez sombre de la Méditerranée, mais certainement aujourd'hui, si je devais écrire le livre encore, ou rajouter des chapitres, ce serait sans doute encore plus triste, et notamment parce qu'il y a eu depuis quand même les millions de morts et les millions de déplacés de la guerre civile syrienne, le délitement absolu de la situation en Palestine. 10 ans, c'est énorme quand même, hein. On aurait pu faire beaucoup de choses en 10 ans, et en fait rien n'a été fait nulle part. Et c'est grâce à Georg que j'ai fait ce constat, parce que j'ai repris le livre que je n'avais pas feuilleté de près, en tout cas depuis très très longtemps, et je me suis dit mais c'est affreux, c'est-à-dire que en fait on est encore descendu peut-être d'un cran, hein, dans... Alors évidemment, toujours avec des moments d'espoir, mais on a quand même franchi encore des pas dans l'horreur de la Méditerranée que je pensais jamais à l'époque que je pourrais avoir un jour à écrire ça.
Die Sicherheitspolitik des Westens ist sehr auf Russland fixiert oder auf China. Der Mittelmeerraum wird nicht so sehr beachtet. Trotzdem konkurrenzieren sich dort. Sie haben eben den libyschen Bürgerkrieg, den syrischen Bürgerkrieg erwähnt. Es gibt den libyschen Bürgerkrieg. Es gibt den Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Und überall gibt es eine Konkurrenz zwischen Frankreich, der Türkei und Russland. Hat dieser Mittelmeerraum auch das Potenzial, einen größeren Konflikt auszulösen?
C'est possible. C'est tout à fait possible. Après, bon, j'aime pas jouer les oracles, et je pense qu'il faut pas justement, il faut au contraire se concentrer sur des projets de paix, hein, et pas tellement voir évidemment les menaces. Mais ce qu'on oublie souvent, je pense, c'est que, bon, bien évidemment, toute la rive nord, à part l'Albanie et le Monténégro. Et le petit enclave bosniaque est européenne, de l'Union européenne, hein, pratiquement toute depuis le détroit de Gibraltar, hein, jusqu'à la Grèce. L'Union européenne est le premier pouvoir en Méditerranée. Sauf que c'est là où des histoires, des intérêts historiques divergents, hein, ne jouent pas du tout de la même façon, par exemple pour les Espagnols ou les Français. On l'a vu là très récemment dans leur relation avec le Maroc, par exemple, hein, ou dans leur relation avec l'Algérie, ou même dans les contre-pouvoirs dans la guerre en Libye. Malheureusement, mais ça on le sait depuis très longtemps, il n'y a une diplomatie européenne qu'en cas de crise. Hein, on l'a vu, alors Josep Borrell, qui est un grand diplomate, qui est catalan par ailleurs, donc qui a toute ma sympathie, est intervenu, mais pour cette affaire, alors là évidemment on a trouvé tout de suite, tout le monde était d'accord pour dire que c'était très mal de détourner les avions au-dessus de la Biélorussie, ce qui est certain. Mais en même temps, en revanche, quand il faut essayer de trouver des positions communes sur les questions libyennes, par exemple, ou sur le conflit israélo-palestinien, ou sur des crises même bien mineures, comme celle qui s'est produite très récemment au Maroc, Là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça met en jeu, par un espèce d'effet de reflet de l'histoire de chacun des pays, leur relation historique avec certaines de ces parties de ces pays. C'est très difficile de... Quand on est un pays comme la France, comme vous venez de le dire, bien évidemment, ex-puissance coloniale dans toute la partie ouest de sud-ouest de la Méditerranée, bien évidemment, on n'a pas la même relation avec l'Algérie que l'Allemagne ou l'Italie, ou l'Espagne. Et donc forcément, ça complique l'idée d'une diplomatie européenne, ou en tout cas, l'idée d'une coopération globale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008, qui a été un fiasco absolu, et je le dis, je suis français, mais c'est ainsi, c'est cette fameuse projet d'union pour la Méditerranée, qui était au départ un projet d'union méditerranéenne, qui a ensuite été vidé complètement de sa substance, pour devenir une espèce d'usine à gaz vide. Alors, ils existent encore, l'Union pour la Méditerranée, ils existaient encore il y a peu, et donc il y a des diplomates qui sont à Barcelone, siège de cette union, qui développent, les pauvres, c'est un peu des placards pour des diplomates dont on ne sait plus trop quoi faire, qui ont été des gens importants à un moment. Donc, j'en ai rencontré quelques-uns par ailleurs, et les projets, évidemment, c'est une coquille absolument vide, donc on ne peut rien faire, puisqu'il n'y a pas de volonté politique. Et pourquoi ? Parce que, et ça c'est une des questions aussi de l'Union européenne, elle a du mal avec ses limites et ses frontières. Pourquoi ? Parce que on a l'impression qu'un peu la seule... Alors après, les spécialistes de géopolitique me contrediront peut-être, mais la seule alternative, c'est un peu soit une perspective d'un agrandissement, soit... Mais on a du mal à fabriquer, par exemple, une zone de libre-échange plus grande, hein, qui pourrait prendre en compte la Méditerranée. On a énormément de mal. D'abord parce qu'on est tenu par ces concepts un peu absurde de limite de l'Europe. Bon, quand on voit dans l'Eurovision, par exemple, apparemment, ça pose aucun problème. Je sais pas si vous avez regardé l'Eurovision samedi, mais c'est un concept qu'on pourrait adapter à l'Europe. Bon, ben, pourquoi pas, les Israéliens y sont. Pourquoi pas les Libanais, les Azerbaïdjanais. Pourquoi? Parce que on a cette idée de l'Europe qui a une frontière géographique. Mais finalement, moi, ce qui me fascine dans cette idée, c'est qu'on oublie qu'Europe, hein, le nom, Europa, c'est une nymphe de Tyr, une princesse de Tyr au Liban, qui est enlevée par Zeus sur les côtes libanaises. Donc déjà, voilà, enfin, je suis peut-être généreux dans cette idée de limite géographique de l'Europe, mais si on regarde, vous savez, cette vieille idée du général de Gaulle, l'Atlantique à l'Oural. Bon, finalement, l'Oural, si on prend un vertical sud de l'Oural, on tombe bien, bien loin, hein, au Moyen-Orient. Et finalement, à part le leurre que représente peut-être le Bosphore, hein, qui nous fait croire justement à une espèce de séparation, alors que sur la carte, c'est quand même assez minuscule, le Bosphore, quand on va vers l'Est, là, les limites sont toujours beaucoup plus floues. Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Europe? Est-ce qu'il n'en fait pas? Bref. Pour en revenir à cette Méditerranée, la vraie question pour l'Union européenne, à mon avis, c'est celle-ci. C'est, est-ce qu'il faut, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, travailler beaucoup le bilatéral, quelque chose qui revient de plus en plus, avec plus de force. Pourquoi? Parce que les institutions internationales elles-mêmes et le multilatéral semblent s'être un peu vidés de son sens. Et donc on a du mal à reconstruire des entités qui pourraient convenir un peu à tout le monde dans cet espace et en refaire un véritable espace politique, ce qui n'est absolument pas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Que ce sont les intérêts les plus tristes, peut-être, des pays européens qui sont servis en Méditerranée par les pays du Sud. Si on regarde l'Égypte, dont je parlais tout à l'heure, l'Égypte nous intéresse pourquoi ? Parce qu'on lui vend énormément d'armes. Le régime du maréchal Sissi, on en fait une espèce de gendarme surarmé avec un peuple meurt de faim. ce qui est une vision désastreuse du futur. C'est certain que ça ne peut pas durer. Hein. C'est impossible d'avoir comme ça un dictateur auquel on vend des armes de la dernière technologie. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il fasse la police en Méditerranée. De la même façon, et on l'a vu, hein, le Maroc, il y a une semaine, a joué sur un intérêt très clair. Les frontières de l'Union européenne. On a besoin de gens pour garder nos frontières. Alors comment en est-on arrivé là? C'est ça la question assez terrible. Donc ça nous éloigne un peu de la littérature, mais c'était la question qu'on m'a posée.
Wir kommen zurück zur Literatur, aber es ist schon interessant zu hören, dass wir die verbindenden Elemente in unserer Zeit ziemlich aus den Augen verloren haben. Die EU zum Beispiel als Friedensprojekt zu sehen, können wir uns auch in unserer aktuellen Schweizer Diskussion manchmal kaum mehr vorstellen oder eben Ideen, die Dinge zu vereinen. Wir fokussieren zu sehr auf Bruchlinien. Trotzdem zurück zur Literatur. Sie haben das Osmanische Reich in seiner ganzen Größe ausgebreitet, und zwar ein Gespräch in Aleppo mit Harold Bedrosian, einem Armenier, und schlagen dann den Bogen zurück nach Frankreich.
Harold me racontait, devant un verre d'arak dans les fauteuils en cuir patiné de l'hôtel Baron, la mise à mort des Arméniens et comment la communauté d'Alep, présente dans la ville depuis les croisades, avait été rançonnée, mais plus ou moins épargnée. Il me racontait la fin de l'Empire ottoman. Le plus brillant, le plus bel empire de Méditerranée, disait-il, des Balkans jusqu'en Libye, qui avait pourtant protégé ses minorités chrétiennes pendant des siècles, moyennant tribut. Harold Bedrosian, né en 1931, m'a montré des photos de sa famille, vers 1900, les hommes en tarbouche et les femmes en robe noire. Il m'a emmené goûter les meilleurs soujouk et bastourma d'Alep. Son français était impeccable, distingué, colonial, avec un bel accent étrange. Nous ne parlions pas de travail, bien sûr. Il n'était qu'un intermédiaire, comme moi. Nous étions deux porteurs de valises, des hommes d'affaires louches, en bonne intelligence, et rien de plus.
Eigentlich, wenn Sie die Geschichten erzählen, erzählen Sie eben Geschichten, die zusammenhängen. Sie erzählen Sarajevo, Aleppo, Jerusalem, es hängt bei Ihnen alles zusammen. Diese Verbindung, die wird immer wieder vergessen. Weshalb wird die vergessen?
Die Geschichte des Empire Ottoman, l'histoire de l'Empire Ottoman, peut-être, est-ce que nous l'avons pas oublié, mais en tout cas, on la voit plus comme une présence réelle. Et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est impossible. Moi, j'étais très surpris de ça, par exemple, que à l'école en France, par exemple, on enseigne très peu ce que c'est que l'Empire ottoman, à part quand on dit oui, la guerre de 14. Alors voilà, il faut bien parler des Ottomans quand même un peu, bon, parce qu'ils sont du côté des Allemands. Mais tout ce qui a été la construction de l'Empire ottoman et justement la fabrication de cette Méditerranée telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est en immense partie la responsabilité, bien sûr, de l'expansion d'une forme de culture ottomane mixte entre arabe et l'administration turque, mais aussi géographiquement extrêmement liée à l'histoire de l'Empire ottoman, notamment pour ce qui est des provinces arabes. Et même, j'irais plus loin, en Europe, l'histoire des Balkans, pour comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que tout d'un coup vous trouvez que des investisseurs turcs à Sarajevo ou en Bosnie, bien évidemment, tout ça vient de l'Empire ottoman. Et l'histoire de la fin de l'Empire ottoman, c'est-à-dire de la ce qu'on pourrait appeler la modernité ottomane ou la rénovation ottomane, jusqu'à la guerre des Balkans et la perte progressive de leur territoire balkanique, est aussi extrêmement intéressante, justement pour voir comment est-ce qu'on en vient justement au massacre, à la guerre, au repli sur soi de la Turquie. Qu'est-ce que c'est que ce nationalisme turc? Qu'est-ce qui fait que finalement l'Empire ottoman est un espèce d'échec aussi pour les Turcs eux-mêmes, hein? C'est-à-dire comment est-ce que le nationalisme turc se referme sur l'idée de turcité, bon. Qui n'était pas du tout... Est-ce qu'on pourrait opposer un ottomanisme, par exemple, à une turcité Qu'est-ce que c'est que le rôle de l'islam là-dedans? Ça, ce sont des questions qui sont extrêmement vivantes aujourd'hui, qui sont de vraies questions, voilà, qui jouent à la fois sur cette histoire du pan-islamisme et de la création des États du Moyen-Orient actuel et aussi des États des Balkans. Donc tout ça est pour moi vraiment important. Mais en littérature aussi, parce que l'Empire ottoman est extrêmement riche en langue et en culture et en littérature et en mélange. Et c'est ça qui est absolument fascinant. La ville de Sarajevo, je prends un petit exemple, au moment de sous l'Empire ottoman et jusque aux Autrichiens, on y écrit bien sûr en la langue slave, hein, qu'on appelle aujourd'hui le bosniaque, mais on y écrit aussi en persan et en arabe. Et on y écrit même une espèce de forme assez belle de bosniaque, écrit avec des caractères bien sûr persans, hein, et arabes. Donc on a cette rencontre à Sarajevo et dans les cultures de Sarajevo. Sarajevo, c'est peut-être la Tolède, hein, du XVIIIe siècle, avec cette rencontre des trois cultures, les séfarades qui parlent ladino, donc juifs, les bosniaques, musulmans, slaves, hein, avec autour, bien sûr, les serbes et les croates qui sont là aussi, hein, à Sarajevo. Tout ça, finalement, échange, traduit, s'inspire. Sauf que on en sait peu et on n'en sait pas grand-chose. Et pourquoi? Parce que, par exemple, énormément. D'abord parce que ça n'intéresse pas grand monde entre nous et moi, mais bref. Mais sinon, parce que aussi les manuscrits, par exemple, persans, j'ai cherché à m'intéresser aux manuscrits de la poésie persane écrite à Sarajevo, qui se trouvait dans la bibliothèque de Sarajevo, sauf qu'elle a brûlé. Et ça a été en partie les collections qui ont été détruites. Donc on a cherché à en reconstituer certains, mais en fait, il ne reste pas grand-chose. Il y a des manuscrits qui sont dispersés dans tous les Balkans, extrêmement importants et intéressants. Il y en a en Bulgarie, par exemple. Il y en a à Tirana. Sauf que comme ça n'intéresse pas grand monde et que ces liens sont vraiment coupés, ben, finalement, il n'y a pas de gens qui soient ni qualifiés, ni qui connaissent réellement assez bien toutes ces choses pour s'y intéresser. C'est comme si on avait perdu, un peu en perdant, quand l'Empire s'effondre, il s'effondre avec ses habitants, et en tout cas ceux qui portaient cette culture mixte. Et on a l'impression que la mixité disparaît petit à petit, hein, avec la fin de l'Empire ottoman, en tout cas dans les Balkans, où s'impose petit à petit cette loi, je ne veux pas être une minorité sur ton territoire. Et ça, bon, c'est très présent dans Zone, hein, j'essaie d'en parler beaucoup, cet effet de territoire qui était un peu couvert par la coupole ottomane ou autrichienne. Et voilà, ça c'est un peu l'évolution des Balkans, et l'évolution des Balkans aujourd'hui, c'est quelque chose aussi d'extrêmement intéressant et préoccupant, même sur le plan littéraire. C'est assez fascinant de voir tous ces pays, la situation des littératures dans tous ces pays issus de l'ex-Yougoslavie, par exemple. Comment, c'est quelque chose que vous connaissez très bien tous, mais comment maintenant les livres ne circulent pas ou très peu, hein, puisque la Croatie est dans l'Union européenne, et que la Bosnie et la Serbie n'y sont pas. Donc évidemment, ça crée déjà des barrières, même pour les livres. Et puis ça fabrique des absurdités, comme par exemple, on peut être traduit, je suis traduit dans trois langues différentes, le serbe, le croate et le bosniaque. Et bien évidemment, c'est un secret pour personne, que beaucoup de ces traductions d'un pays à l'autre sont piratées, en fait, hein. On change de trois choses. C'est surtout vrai pour les best-sellers et les essais. Pourquoi? Parce que c'est évidemment, les langues s'éloignent. On ne peut pas dire que c'est la même langue, puisque politiquement, ça ne l'est plus, hein. Mais en tout cas, ça montre bien à quel point cette circulation des idées, est encore en remise en question et en danger aujourd'hui. Et pour le moment, quand on prend un pays des pays comme l'Albanie ou la Bosnie, qui sont les pays musulmans d'Europe, hein, puisqu'il y a un véritable islam d'Europe, c'est celui-là. Bon, bien sûr, il y a l'islam de France, l'islam d'Allemagne, l'islam de Suisse. Mais là, voilà, ce sont des pays un peu comme les restes du passage des Ottomans. Nous n'avons pas, que je sache, de date ni prévue, ni même lointaine pour l'intégration de ces États dans l'Union européenne.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde über das Trennende gesprochen, über das, was schiefläuft in der Zone. Text hat es auch Stellen, wo das Vibrierende, das Lebendige, das Kulturelle beschrieben wird. Der Reiz eigentlich dieser Zone Mediterrane. Sie lesen uns jetzt eine Textstelle vor, wo Barcelona mit Beirut verbunden wird. Auch so ein wilder Ritt, aber diesmal der lustigeren Sorte.
Avec Stéphanie, nous sommes allés dans un estaminet bien différent. Le côté moderne, stylé de la capitale catalane. Un endroit rouge et blanc, sobre, où les clients buvaient debout, dans la fantasmagorie artistique d'un projecteur de vidéo, des cocktails aux couleurs assorties. Il y avait des hommes bien habillés, des femmes élégantes, et le contraste était si grand qu'on avait l'impression d'une ville devenue schizophrène ou illusionniste. D'un côté, le faux sordide nostalgique, et de l'autre, l'image la plus avant-gardiste de la modernité tranquille et bourgeoise, bien loin de Don Quichotte. Les deux aspects, tout aussi artificiels l'un que l'autre, me semblait-il. L'identité de Barcelone doit se trouver cachée quelque part entre ces deux images, comme Beyrouth. De l'autre côté, exactement de la zone, se balançait à l'infini entre modernité rutilante et pauvreté belliqueuse, reflet, symétrie de Barcelone sur l'axe central de l'Italie, la Méditerranée pliée en deux, les ports de l'Est et de l'Ouest se recouvrent exactement. À Beyrouth, quand j'y allais en mission, nos types de l'ambassade m'emmenaient souvent dans une boîte de nuit au nom étrange de Bio-18, un hangar derrière le port dans le quartier de la quarantaine, où avait eu lieu un des premiers massacres de la guerre civile. En janvier 76, les phalangistes avaient passé par les armes les Palestiniens d'Intissar et les Kurdes qui habitaient ce camp putrescent coincé entre les conteneurs des docks et la décharge municipale. Et c'est à l'endroit précis de la boucherie que le propriétaire avait ouvert son établissement où rugissait une alternance agréable de musique internationale et de pop arabe.
Sie leben in Barcelona, Sie sind Teil, Sie waren Teil dieser Zone. Reden wir zu oft über Krieg und Konflikt, wenn wir über den Mittelmeerraum reden?
Non, bien sûr que non. Bah, d'ailleurs, disons que c'était évidemment le parti pris, comme je disais, plus l'Iliade que l'Odyssée. Hein, mais bien évidemment, il y a aussi dans la Méditerranée le côté Odyssée, plaisir, culture, tourisme, tout ça. Voilà, c'est justement ce qui rend aussi ces massacres et ces guerres si tristes, c'est que finalement on se trouve ou qu'on creuse. Oui, là j'ai cherché, je creuse et je trouve des cadavres, hein. Mais on trouve aussi des monuments magnifiques et des mosaïques, par exemple, hein, qui sont un peu aussi le modèle de zone. Hein. Finalement, c'est découvrir une mosaïque, comme là je construis tesselle par tesselle une espèce de dessin ou de carte, hein, de la Méditerranée. Et finalement, on trouve tout ça, un peu comme cette image de tout à l'heure du pont de Lodi. Effectivement, si vous passez par en train entre Milan et Lodi, vous pouvez toujours imaginer la bataille. Hein, vous pouvez vous dire qu'il y a sans doute des éléphants d'Hannibal, hein, qui sont enterrés par là et que leurs ossements sont quelque part. Mais on peut aussi, hein, penser à des choses beaucoup plus gaies, comme les poètes médiévaux et toute la grandeur architecturale de l'Italie. Donc, bien sûr, tout ça, c'est aussi une façon de voir les choses. Malheureusement, en tout cas, c'était vrai jusqu'à l'année dernière, et ça, c'est quelque chose aussi de très politique, hein, toutes ces grandes métropoles méditerranéennes cherchent à donner bien plus, bien sûr, l'image du palmier et du tourisme et du bar et de la fête qu'autre chose. Et donc finalement, ce qu'on vend, c'est plus une marque, une image, un nom, que des réalités culturelles. Que ce soit l'exemple de Barcelone ou celui de Marseille qui cherche, un peu malgré même la volonté de ses habitants, à avoir aussi une image de ville touristique méditerranéenne, comme Rome, Venise, ou Istanbul. Donc voilà, on cherche à vendre un peu ces images-là. Et la littérature, malheureusement, elle est un peu presque obligée de prendre le contre-pied de ça, hein, parce que les récits, finalement, nous montrent tout autre chose. L'exemple que je prends là de Barcelone, c'est cette construction du Forum des Cultures, qui date du début des années 2000, qui est construit à l'endroit même, alors vous allez me dire c'est pas de chance, mais bon, c'est construit à l'endroit même où énormément de républicains et de sympathisants, même pas anarchistes et communistes, ont été fusillés par Franco après la guerre. C'est une espèce de camp militaire, et dessus on a construit un espèce de parc d'attractions culturelles qui maintenant n'est plus qu'un port, un yacht club et des bateaux. Donc voilà, ça montre bien un peu toute cette ambiguïté qu'il y a aussi dans l'urbanisme. Comment faire que justement nos villes se construisent aussi avec ces souvenirs-là et pas uniquement sur un mode touristique qui cherche à effacer tout ça. C'est aussi voilà des questions que pose le livre. En tout cas, par ces juxtapositions, justement, hein, comme dans le texte que je viens de lire, ce que j'essaye de faire, c'est ça, c'est de mettre en regard l'un et l'autre.
Auf der einen Seite ist es die Ekstase einer Beiruter Nacht, die Sie beschreiben, oder Barcelona, diese Kraft, und auf der anderen Seite diese Wüterei, dieses Toben, diese Brutalität der Kriege. Sie beschreiben es insbesondere aus dem Bosnienkrieg, aber auch andere Massaker. Wie nahe sind sich Brutalität und Ekstase in der Zone?
Bah, oui, c'est un peu ce que je viens de dire. On les voit toujours un peu ensemble. Le meilleur exemple, c'est cette boîte de nuit de Beyrouth, là, je reviens là-dessus, que tous ceux qui sont allés à Beyrouth ces années-là connaissent sans doute, qui s'appelle le B018 ou BO18, et qui était un monument vivant. Alors, c'était un monument à la nuit beyroutine, mais c'était aussi un espèce de monument à ces morts du massacre de la quarantaine de ce camp palestinien, puisque même les tables étaient en forme de cercueil. Et donc on dansait un peu sur les cercueils de ces massacrés dans ce camp. Et puis cette boîte de nuit avait la particularité de s'ouvrir à l'aube. Le toit s'ouvrait sur le ciel de Beyrouth. Et j'ai demandé à celui qui avait eu l'idée de... Parce qu'avant, ce club était à Jounieh. Et s'est ensuite installé là. Est-ce que c'était fait exprès, hein, cette idée de commémorer ainsi? Il m'a dit, mais oui, mais le Liban, il n'y a pas de monument pour les morts de la guerre au Liban. Il y a un monument à la guerre, mais en tout cas pour les Palestiniens morts, il n'y a pas de monument dans ce coin-là. Et donc il m'a dit, et même on a mis on voulait mettre des noms sur les cercueils, hein, presque, sur les tables de la discothèque, en disant finalement, le Liban, c'est quoi? C'est une illusion festive qui se construit sur les massacres de la guerre civile. Ce qui est assez incroyable, non seulement de l'admettre, hein, mais en même temps d'en prendre acte au point de. Alors c'est peut-être évidemment un double discours, parce que lui, c'est quand même un patron de boîte de nuit. Bon. Mais néanmoins, j'ai trouvé ça assez incroyable, quoi, cette possibilité de construire cet endroit avec cette perspective-là. Et d'ailleurs, c'est le passage qui est juste après ce que je viens de lire, hein, sur la mémoire de la quarantaine. Donc oui, bien sûr, si vous allez en Serbie ou en Bosnie aujourd'hui, bien sûr, même en, alors c'était bien plus fort au moment de la guerre, mais ça l'est encore un peu aujourd'hui. Tout ce qui est les stars, on va dire, de la vie culturelle entre guillemets, de la nuit, de la pop musique, ont beaucoup de choses à voir avec la guerre. Bon, maintenant, bien sûr, tous ces gens sont devenus plus âgés, mais voilà, il y a des stars de la pop qui étaient très liées avec des généraux. Tout le monde connaît le cas de la fameuse Tsetsa, par exemple, et ainsi de suite. Bref, et tout ça, c'est une des réalités, je pense, pas seulement de la Méditerranée pour le coup, mais réellement de la guerre et de la violence. C'est que finalement, sur le terreau de la violence, surgissent énormément de choses, y compris artistiques.
Der Schriftsteller Ulrich Becher, der die Welt aus der kosmopolitischen Weltsicht des untergegangenen Habsburgreichs betrachtet hat, beschreibt das 20. Jahrhundert als eine kriminelle Epoche. Mit Kriegsverbrecherprozessen wurde versucht, Recht zu schaffen, das Böse zu benennen, gegen die Nazis in Nürnberg, die japanischen Generäle in Tokio, die Schlechter von Ruanda, teilweise auch in der Schweiz. Doch das Dealing with the Past über die Justiz reicht nicht. Bevor wir uns im Kern unserer Diskussion widmen, nämlich die Rolle von Literatur und Kunst im geopolitischen Kontext, noch einmal eine Textstelle aus der Zone. Der Protagonist besucht den Prozess gegen seinen angeklagten Warlord aus dem Bosnienkrieg in Den Haag. Eine der stärksten Passagen dieses Werks, wenn ich mir diese...
Blaschkitz dans son box est un homme seul pour répondre de tous nos crimes. Selon ce principe de responsabilité pénale individuelle qui le lie à l'histoire. C'est un corps dans un fauteuil avec un casque sur les oreilles. Il est jugé à la place de tous ceux qui ont tenu une arme. Il sera condamné à 45 ans de prison, puis à 9 ans en appel, et aujourd'hui, il doit profiter de sa pré-retraite du côté de Kiseljak, pas très loin des villages où gisent les corps carbonisés des civils dont on lui reprochait la mort. Ces gens qui attendent encore une justice qui ne viendra jamais. À La Haye, 13 Hollandaises, il y avait un tel défilé d'ex-Yougoslaves que c'était un casse-tête d'organiser les comparutions sans que ce tout petit monde se croise dans les avions, les trains ou les voitures avant de se retrouver tous ensemble dans les luxueuses cellules du bâtiment de détention ou les antichambres des salles d'audience. Le pays disparu était reconstitué une dernière fois par la justice internationale. Des Serbes, des Croates, des Bosniaques de tout poil, des Monténégrins se tombaient dans les bras ou faisaient semblant de ne pas se reconnaître. Ils étaient là pour parler de leur guerre. Pour déballer leur linge sale à des juges qui, bien sûr, ne pouvaient être ni serbes, ni croates, ni bosniaques, ni monténégrins, ni même slovènes, macédoniens ou albanais. Seuls leurs défenseurs l'étaient. Et cette communauté internationale qui les jugeait indirectement regardait d'un œil lointain tous ces barbares au nom imprononçable. Les centaines de milliers de pages des procédures devenaient un océan navrant, une marée de justice où pataugeaient les victimes venues témoigner, les déplacer, les torturer, les tabasser, les violer, les dépouiller, les veuves, pleuraient le plus souvent à huis clos, dans une salle aux volets baissés, et leurs récits ne sortaient pas des cages vitrées des interprètes, consignés en anglais ou en français pour la postérité, dans les comptes rendus d'audience, sans que les juges entendent les accents, les dialectes, les expressions de leur voix, qui traçaient une vraie carte de la douleur. Tous reprenaient ensuite l'avion, avec un goût de bile dans la bouche, pour retourner fréquenter leurs ennemis, leurs bourreaux ou leurs souvenirs, sans que ni leur haine, ni leur amour, ni leur loyauté, ni leur souffrance aient servi à rien. Personnages dans la grande procédure organisée par les juristes internationaux, plongés dans les précédents et la jurisprudence de l'horreur, chargés de mettre de l'ordre dans le droit du meurtre, de savoir à quel moment une balle dans la tête était légitime, de iure, et à quel moment elle constituait une grave infraction aux droits et coutumes de guerre. En se référant sans cesse aux arrêts Nuremberg, Jérusalem, Rwanda, précédents historiques reconnus comme tels par le statut du tribunal.
Ihr Protagonist überlegt sich dann, wie er selber Auskunft geben würde, wie er das wie er Unerklärbare erklären würde, und sagt dann, er würde weit zurückgehen zu den verängstigten Menschen in der Frühgeschichte. Er würde zur Entführung der Helena gehen, zu Hektors Tod, zur Belagerung von Troja, zu Aeneas, der an der Küste von Latium landet, und zu den Römern und dem Raub der Sabinierinnen. Also er landet dann eigentlich bei der Literatur. Sie bringen hier eben die Literatur und die Mythen ins Spiel, und eigentlich sind unsere Frühwerke, die Ilias insbesondere, oder auch die Aeneas, sind Verherrlichung von Kriegsverbrechen.
Oui, mais sans jugement. Le jugement, ce serait le nôtre. Mais effectivement, et de toute façon, si on regarde, par exemple, si vous regardez le chapitre de l'Iliade qu'on appelle la Dolonide, qui est cette histoire où Ulysse se retrouve dans la nuit à attraper un espion et à le massacrer, en gros, sans procès. Un homme désarmé, apparemment. Voilà. Donc oui, il y a des crimes de guerre dans l'idéal, ou en tout cas ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme, comme l'image, ou en tout cas, puisque on peut pas regarder bien sûr en arrière. Je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, de juger Homer selon des critères d'aujourd'hui. En revanche, hein, nous pouvons relire l'Iliade à l'aune de ce qui se passe chez nous et en tirer un très grand profit. Mais on ne peut pas, évidemment, peut-être revenir en arrière sur et penser l'Énéide et l'Iliade en termes juridiques contemporains. Ça ferait pas grand sens. Et ce qui est sûr, c'est ce qui est passionnant pour moi, et je reviens toujours à cette idée de juxtaposition, hein. C'est non seulement de dire, voilà comment on en est arrivé là, de retracer un peu une histoire, un enchaînement de récits, hein. Mais en même temps, oui, de créer des frictions, hein. Parce que oui, c'est peut-être triste de se dire que il y a encore et toujours des affrontements entre des gens qui se pensent possesseurs du bien et d'autres qui se croient exactement de la même façon possesseurs d'un autre bien et ainsi de suite et qui en viennent à l'extrême violence, à la violence de guerre, dans des circonstances qui nous semblent à la fois extrêmement semblables et toujours différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature, c'est que finalement l'homme dans la guerre, l'homme qui souffre, l'homme qui justement, ou les civils, hein, qui sont détruits, brisés, tués, massacrés, mais finalement ils sont toujours identiques. Et la première trace qu'on en a, c'est justement dans l'Iliade. Il y a des gens qui ont soutenu que Homère était médecin. Et pourquoi ? Parce que ses descriptions des effets des armes sur les corps sont extrêmement précises. Et oui, ça veut dire que la littérature de guerre, elle existe. Pourquoi ? Parce que c'est justement cette position de la destruction des corps dans la guerre qui se poursuit, alors évidemment de façon différente, mais en tout cas qui est une espèce de long traîne, hein, de long deuil extrêmement violent au cours des siècles.
Eine letzte Frage, meine Kernfrage, die daraus resultiert, was soll Literatur, was kann Literatur für einen Beitrag leisten, die tieferen Kräfte der Geopolitik und des menschlichen Wesens zu erfassen?
Nix. Non. c'est une question très, très terrible, hein, au sens premier du terme, qui fait peur en tout cas. Parce que si la réponse était rien, qu'aurions-nous fait, hein? Que vaudraient toutes ces heures passées sous la lampe, tous ces textes que nous accumulons, à quoi serviraient-ils? Donc bien sûr, je ne peux pas répondre non à cette question. Et après, ce que je ne sais pas, c'est comment, de quelle façon, mais je sais qu'il y a un espace, en tout cas, qui est celui qui se fabrique entre le livre et le lecteur. Et à mon avis, c'est dans cet espace que se jouent justement les possibilités du changement. Alors ça ne veut pas dire que... parce que la littérature, elle a non seulement une fonction qui vient du témoignage, c'est-à-dire qu'on raconte, mais elle permet de remettre en jeu, hein, justement, et au-delà du témoignage, pour remettre en mouvement des récits, des personnages, qui vont susciter un effet littéraire, mais aussi quelque chose, je pense, de l'ordre de la réflexion chez le lecteur. Mais malheureusement, on a beau écrire des livres, puis toujours, ça n'a pas stoppé les guerres, hein. Mais en revanche, on peut avoir une attitude, et ça, c'est ça qui me passionne, moi, c'est d'essayer de lutter contre... je pense que ce qui est dangereux, ce sont toutes les positions hégémoniques. Ces positions de cette violence invisible qu'est la domination. La domination coloniale, par exemple, la domination économique, la domination linguistique. Et c'est ces situations-là aussi que la littérature peut combattre. En justement faisant naître des textes dans des langues différentes, avec des façons d'écrire différentes, avec des récits différents, à donner d'autres versions des récits que nous connaissons. Et ça, à mon avis, c'est une des possibilités, ou un des liens qui, pour moi, sont les plus intéressants et les plus importants en matière de littérature. Par exemple, la langue arabe. Aujourd'hui, c'est une situation très triste, hein, aujourd'hui, il y a extrêmement peu de lecteurs ou de maisons d'édition dans le monde arabe. Alors pas qu'on publie peu de livres, Mais si on compare au nombre au million d'habitants que représente le monde arabe, disons que le ratio est extrêmement bas du nombre de livres qui se vendent par rapport à la population. Et on ne sait même pas le nombre de livres qui se lisent réellement. Après, le nombre de livres qui s'exportent aussi est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on traduit très peu de littérature arabe. Et quand je dis littérature arabe, regardez, je prends un monde quand même gigantesque, hein, qui va du Maroc jusqu'au Golfe Persique. Eh bien, ce monde, on ne l'entend pas, hein, on ne le lit pas, ou très peu. Et c'est ça aussi, un des vrais défis, hein, pour lesquels, la littérature prise de l'autre côté, du côté du monde de l'édition, du lecteur, peut beaucoup. C'est que on peut justement, en faisant entendre un peu ces voix, hein, qui viennent très différentes, très diverses, du monde arabe, et en les diffusant plus en Europe ou ailleurs, bien évidemment changer un peu le monde et notre monde et nos relations avec lui. Donc c'est vraiment extrêmement, je pense, important. Et si la littérature peut quelque chose, c'est justement dans cette alliance entre celui qui écrit et celui qui lit.
Es ist der Moment, Sie ins Spiel zu bringen, liebe Gäste. Viele von Ihnen haben einen besonderen Bezug auch zum Mittelmeerraum oder zu Sicherheit und Frieden. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen, aber auch Sätze mit Ausrufezeichen zu bilden, quasi, um auch Bemerkungen zu machen. Ich würde Sie bitten, jeweils vielleicht Ihren Bezug, so Ihren beruflichen oder sonstigen, zu nennen, damit wir auch die Fragen und Aussagen ein bisschen einordnen können.
Oui, mon nom est Laurent Gottschall, je dirige un institut de la recherche sur la paix, et à vous entendre, et puis aussi à entendre ce que Georg, vous posez comme question en ce qui concernait la relation entre la littérature et la géopolitique. Moi, j'ai une question en ce qui concerne la relation entre la littérature et la paix, ce qui n'est pas l'opposé d'ailleurs, mais pas non plus identique. Dans le domaine de la paix, la promotion de la paix, il y a des tas de théories, en partie aussi d'origine psychologue, qui ont été développées, qui visent à renforcer la compréhension mutuelle de groupes antagonistes. À vous entendre, on pourrait dire que peut-être il vaudrait mieux faire lire de la littérature à des parties opposantes dans un conflit et discuter de textes littéraires, et que peut-être il y aurait bien plus de valeur ajoutée à un chemin dirigé vers la paix qu'avec des modèles psychologiques complexes. Qu'est-ce que vous en dites ?
C'est une très très belle idée. Après, je pense que la littérature ne peut être qu'un des aspects, parce qu'on sait que peut-être la paix, c'est toujours un ensemble de facteurs. Mais oui, effectivement, peut-être dans le travail, moi je me suis intéressé à d'ailleurs j'en parle un peu dans Zone, à la communauté de Sant'Egidio, qui ont beaucoup fait pour la paix. Depuis, pourtant, un point de départ, on pourrait dire, c'est une communauté catholique, dont on pourrait dire que forcément ils sont extrêmement partie prenante comme catholiques, et que donc ils pourraient ne pas être à même de travailler pour la paix. Pourtant, ils ont obtenu des résultats absolument, parfois absolument extraordinaires. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans ces questions pour moi, hein, qui ne suis pas du tout un spécialiste de la paix, c'est à quel moment est-ce que le texte intervient. Parce qu'il faut bien des conditions pour lire. Effectivement, c'est pas un barrage en Bosnie ou en Syrie que vous allez donner aux miliciens, hein, un opuscule avec marqué ou des poèmes ou un roman. Donc moi ce qui me manque en tout cas, c'est de voir comment est-ce qu'on passe justement du pouvoir de la violence, ou en tout cas de la violence même politique, de la réalité de l'affrontement, au moment où on va se mettre à lire de la littérature. Mais je suis d'accord avec vous, ce serait sans doute absolument extraordinaire.
Schau ins Publikum.
Ich wollte da nochmal zurück auf die Literatur kommen, ein bisschen weg von der Geopolitik. Und zwar beschäftigt mich die Frage, was kann Literatur, was soll Literatur, was ist der Mehrwert von Literatur über zum Beispiel Geschichtsschreibung. Das ist eine Frage, die mich auch sehr umtreibt. Und ich finde, Sie zeigen in der Sohn sehr gut, dass Literatur zum Beispiel durch diese Juxtaposition, diese Superposition erlaubt, Konflikte durch die Bespiegelung mit anderen Konflikten oder mit literarischen Texten zu verstehen. Und ich wollte vielleicht auch noch ergänzen, dass Literatur gerade durch diese, durch das Exemplarische, also durch das, durch diese Exemplarität einzelner Geschichten auch die Entmenschlichung zeigen kann, die Konflikte auslesen können. Und dass vielleicht auch gerade durch die Zuspitzung, durch das Konzentrieren auf wenige Bilder, wenige Szenen, vielleicht so auch ein, oder auch vielleicht auch durch groteske Verzerrungen, unsere, einerseits vielleicht Konventionen der Geschichtsschreibung, Konventionen, wie man einen Konflikt betrachtet, wie man darüber spricht, aufgebrochen werden können, vielleicht neu bewertet werden können und im Endeffekt den Leser auch viel mehr, viel näher an diese Fragen heranbringt. Aber danke auf jeden Fall für die klugen Überlegungen.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais après, il y a une vraie question qui est aussi, on peut pas toujours, enfin, il faut pas, à mon avis, prendre la littérature toujours pour innocente, au sens où toute la littérature ne va pas toujours dans le sens ni du bien ni de la morale ni rien de tout ça. Oui, évidemment. Et donc la d'abord, la littérature aussi, il faut lui rendre sa diversité, hein, dans la forme, dans la réalité, dans ce que c'est que le roman, la poésie. Et au XXIe siècle, aujourd'hui, justement, le roman peut tout. Le roman est le genre qui a un peu mangé tout. Et le roman peut absorber l'écriture historique, le témoignage, l'enquête... dans un ensemble mixte. Et finalement, c'est cette mixité du genre romanesque qui est vraiment l'aboutissement de tout ce qui s'est produit au XXe siècle, qui donne aujourd'hui, justement, ces livres extrêmement intéressants, ces romans qui mettent en jeu et en relation des réalités même textuelles extrêmement diverses. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est justement aussi l'écriture de l'histoire. Aujourd'hui, tous les historiens pensent à ça, à comment est-ce qu'on écrit l'histoire, qu'est-ce que c'est que la fiction, puisque finalement, l'histoire, c'est une fiction. Et après, qu'est-ce qui la sépare des autres ? C'est une fiction au sens où c'est un récit. Et un récit avec aussi une partie d'intuition et donc d'imaginaire. Enfin bref, il y a énormément de catégories qui ressemblent à celles du roman. Et pour moi, c'est absolument passionnant que de voir que des historiens aujourd'hui, qui ont une carrière en histoire, en arrivent finalement au récit de littéraire. Et dans quelle modalité ils le font ? Voilà. Et à mon avis, tout ça a à voir aussi avec la question de l'inconnu, ce qu'on ne sait pas. Ce que les textes ne disent pas. Un historien, c'est quelqu'un qui travaille sur des sources. Mais quand les sources sont muettes, est-ce que j'imagine ? Est-ce que j'imagine pas ? Est-ce que je tourne autour de cette espèce de trou noir que me laissent les sources ? Ou est-ce que j'y rentre dedans à pieds joints ? Voilà, ça c'est les vraies questions qui, moi, me semblent extrêmement passionnantes en ce moment en littérature.
Urs Vögeli, ich arbeite für einen Think Tank zum Thema Sicherheits- und Geopolitik. Die Frage schließt da an, ab wann, also ich möchte es zugespitzt und kurz formulieren, ab wann wird Literatur selbst dann wieder zur Waffe oder zum Konfliktmittel? Im Guten wie im Schlechten vielleicht als Verteidigung, quasi die Reflexion von eigenen Werten, das kann ja auch eine Verteidigungswaffe sein quasi, oder eben auch um eigene Narrative, eigene Deutungen dann auch zu bringen, wenn wir ja die großen geopolitischen Konflikte, die wir schon drin sind und die sich mehr herauskristallisieren, insbesondere mit China, ist das ein großes Thema, die Literatur, die Narrative, die immer mitschwingen, die über Jahrzehnte geprägt werden, wo Literatur ja dann sicher auch ein mächtiges, wenn ich es eben zugespitzt sagen darf, Mittel ist. Wie sehen Sie diese Ambivalenz und eben ab wann wird Literatur selbst zur Waffe, zugespitzt gesagt?
Oui, c'est justement de cette ambiguïté dont on parlait tout à l'heure, de cette possibilité, c'est-à-dire que, attention, il y a autant de littérature qu'il y a de moments politiques et qu'il y a presque d'auteurs. Et quand on parle de ces constructions orientalistes, par exemple, donc, qui concernent la vision qu'on a eue de la Chine, qui sont des constructions sur le long terme, avec d'un immense ensemble, d'un corpus gigantesque de textes, en fait, quand on plonge dans ce corpus, on peut même toujours en tirer un ou deux qui disent « Ah non, mais lui, il n'est pas comme ça. Il est plus ou moins... il a une autre vision, par exemple, des Chinois, de la Chine, ou de l'Iran, ou de la Syrie. » Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces corpus... correspondre à un moment d'histoire qui va avec toute une histoire des idées, qui va aussi avec une histoire politique. C'est-à-dire que l'histoire de l'orientalisme en littérature, c'est l'histoire de la domination de l'Europe sur l'Asie, depuis l'Empire ottoman jusqu'à la Chine. Voilà, c'est ça l'histoire aussi, une partie de l'histoire de la littérature du XIXe siècle. C'est ça, c'est le et ça commence avec sans doute, enfin, on peut mettre un point de départ avec le début de l'expédition d'Égypte de Bonaparte et les textes qu'ils produisent et puis l'intérêt pour l'Orient, la mode et ainsi de suite. Mais derrière, ce qu'il y a, c'est la domination économique, politique de la France, l'Angleterre d'abord et puis les autres ensuite sur le Moyen-Orient. Donc ça, c'est certain.
Also, Sie haben jetzt Literatur als mögliche Waffe angesprochen und ich habe das in meinem Sinne so verstanden, weil in Ihrer Geschichte sehr viel Autobiografisches für mich enthalten ist, da ich sehr lange im ex-jugoslawischen Kontext gearbeitet habe, während des Krieges und nach dem Krieg. Und ich möchte hier die Literatur als ein Teil der Kultur nehmen, die ich seinerzeit als Waffe benutzen konnte, weil ich eben eine solche Arbeit machte, dass ich, sagen wir mal, als Vertreter des IKRK am Morgen mit einem Massenmörder gesprochen habe und am Nachmittag habe ich das Geburtshaus von Raphael besucht und in einer anderen Situation war es genau dasselbe, nur war das in Odensee und da war ich im Geburtshaus von Hans Christian Andersen und ich muss sagen, also diese Waffe, die Kultur mir auf den Weg gab, das hat mir geholfen, dass ich das andere besser verkraften oder besser verarbeiten konnte, weil eben diese Abstraktion etwas Positives darstellte, das sich dann in meiner Erinnerung noch viel, viel stärker widerspiegelt als das Negative, das ich an diesen Tagen erlebt habe.
C'est un très bel exemple, un très beau témoignage. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est même la culture dans son ensemble qui, mais même quand on, dans les Balkans, les questions nationales qui peuvent, quand on les regarde de loin, être résumées en se disant, ah oui, il y a les Serbes, les Croates, les Bosniaques, bon, tout ça, c'est des noms qui paraissent très précis vu de loin. Mais après, quand on rentre dans les détails de la culture, justement, ou en tout cas des faits culturels, on se rend compte que, bien sûr, il y a une véritable mixité et un véritable mélange, justement. Et que ce sont la littérature et la culture, dans le sens du nationalisme, qui cherchent à les séparer. Mais dans la réalité, on s'étonne, par exemple, de trouver sur la danse, le colo, par exemple, bon, la musique. On se dit bah ah oui mais c'est en fait effectivement partagé et puis il y a énormément de choses comme ça et même dans les écrivains tout d'un coup quand on regarde le parcours de vie justement les biographies d'écrivains on se rend compte que là aussi, les vies sont comme les nôtres, c'est-à-dire mixtes par définition. On est toujours le produit d'énormément d'expériences différentes. Et c'est peut-être ça aussi un des moteurs pour la paix, c'est qu'on a tous cette possibilité de partager, grâce à cette mixité qui est en nous, l'expérience d'autrui, et qu'en même temps, la littérature nous y aide, et la culture en règle générale, à faire le partage de cette différence.
Wir sind mit der Zeit praktisch am Ende. Ich habe eine letzte Frage und die zielt darauf, dass, wie wir begonnen haben, die Saison müsste eigentlich eine Fortsetzung haben. Müsste vielleicht eine Fortsetzung haben, wo der Held am Ende auf sein Ithaka wiederfindet, eine gewisse Ruhe findet. Was müsste passieren, dass eine Saison Deuxième Edition quasi in Ithaka im Frieden endet?
Ça, ce serait l'Odyssée, et plus l'idéal.
Voilà.
Non, je ne ferai pas l'Odyssée.
La raison pour laquelle je pose la question.
Je ferai l'Énéide plutôt. Pourquoi? Parce que, juste une petite parenthèse, même sur un mode peut-être plus drôle. L'Odyssée, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui met 10 ans à rentrer chez lui. On se dit, quel est l'intérêt de ce voyage? Si tout ça, c'est pour retrouver sa femme et son chien, quand même. Alors que le voyage d'Aîné, par exemple, ou d'Abraham, c'est autre chose. Là, voilà, on voyage. Effectivement, on passe énormément de difficultés, mais pour fonder quelque chose d'autre. Et donc, voilà, je ne suis pas un grand ami d'Ulysse, moi. Je suis plus un ami d'Aîné.
Voilà.
Demokratie.